7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on est tous au centre commercial, les malls, comme on dit en anglais, une invention américaine qui s'est d'abord développée sur le continent américain, sud-américain aussi, où les familles passent leur week-end à rêver devant les étalages et quand elles le peuvent à acheter, le plus souvent d'ailleurs à crédit. Ces centres commerciaux se développent depuis quelques années aussi sur le continent africain, vite, très vite d'ailleurs, à la faveur de l'urbanisation, de l'émergence des classes moyennes. Mais correspondent-ils vraiment aux attentes, au mode de vie des consommateurs africains, sur un continent qui est largement dominé par le petit commerce informel, avec des clients peu bancarisés? Les centres commerciaux ont-ils un avenir? Et surtout, peuvent-ils servir les entreprises africaines? Les voisins, dites-nous déjà, si vous allez au centre commercial, ce que vous pensez de ces temples de la consommation dans votre ville. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71 et nous parler des prix, de la qualité et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux. Vous allez découvrir dans quelques minutes maintenant pourquoi implanter un mall dans une ville africaine est un vrai casse-tête avec nos invités. Bonjour Bertrand Boulet.
Bonjour Emmanuel, bonjour.
Vous êtes chargé de cours à la Sorbonne, consultant en urbanisme commercial et président de Mall & Market. On peut dire que c'est un bon filon globalement avec la mondialisation du commerce et la généralisation des chaînes de magasins, non?
C'est un métier qui a intérêt aujourd'hui à s'exporter
sur le continent. C'est un métier, d'accord.
C'est un métier, une expertise qui a totalement intérêt à s'exporter en Afrique en particulier.
Dan Onana, bonjour.
Bonjour.
Dan Onana, vous êtes directeur du patrimoine et de l'expansion du groupe La Fnac Darty.
Vous
regardez surtout vers l'Afrique ces derniers temps?
Pas mal, ouais, c'est assez intéressant ce qui se passe là-bas.
Premier magasin Fnac a ouvert au Maroc il y a 6 ans maintenant?
Tout à fait, en 2011, au Morocco Mall, à Casablanca.
Donc dans un centre commercial justement?
Nécessairement.
Et depuis?
Et depuis, on poursuit l'aventure avec Abidjan, où deux magasins ont ouvert en centre-ville, récemment Douala, et cette semaine, Brazzaville, avant de poursuivre l'expansion sur d'autres territoires en Afrique subsaharienne principalement, et également le Maroc et la Tunisie.
Et vous nous direz si les centres commerciaux peuvent aussi proposer de la culture d'ailleurs en Afrique. Appelez-nous les voisins, les voisines, 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone du standard. Camille attend vos appels et racontez-nous tout simplement vos pratiques de consommateurs quand vous allez au centre commercial, si vous y allez et si vous le boudez d'ailleurs aussi. Je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Facebook, les voisins ne sont pas encore conquis, hein, je vous le dis tout de suite. Jackie, à Tananarive. Les produits des centres commerciaux, nous dit Jackie, sont souvent de bonne qualité, c'est sûr. Mais leurs prix sont fixés. Alors qu'en petit commerce, évidemment, on peut négocier. Eh ben, c'est le principe du circuit informel, nous dit Jackie, il a tout compris. Mamadou à Dakar. La seule manière de fidéliser la clientèle, c'est de lui proposer des prix plus accessibles. Au Sénégal, seuls les riches font leurs courses en supermarché et les marchés informels sont bien plus attrayants et leurs prix sont raisonnables. Fardel, à Brazzaville, chez moi les centres commerciaux sont à 80% fréquentés par des étrangers. Vrai ou pas vrai?
C'est pas faux, c'est pas faux.
Hein? Bon. Personnellement, je préfère les boutiques de quartier, c'est moins cher. Confirmation de cette haute internaute à Brazzaville également. Les marchés informels sont ouverts aussi la nuit, ce qui nous permet de faire les courses à toute heure. Et en plus, les produits vendus la nuit sont encore moins chers. Vous voyez que le commerce informel est toujours en avance finalement, non?
Oui, avec une petite subtilité, quand on s'est implanté à Casablanca, on s'attendait énormément à proposer plus de produits techniques que de produits éditoriaux. Et dans la mesure où le marché informel est très très développé, on s'est rendu compte que finalement, les Casablancais étaient très très contents d'acheter les vrais produits originaux estampillés avec le bon label.
C'est-à-dire, par exemple?
Les vrais CD, les vrais DVD, les vrais jeux vidéo avec le packaging qui va bien.
Oui.
Et on a eu la même surprise à Douala, où finalement, les livres et les produits éditoriaux se vendent très 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 bien.
Appelez-nous en tout cas au 33 1 84 22 71 71. L'émission est consacrée aux centres commerciaux, en particulier sur le continent africain.
7 milliards de voisins, pour les voisins et les voisines, c'est tous les jours sur RFI.
Bertrand Boulet, le salon de l'immobilier commercial s'est tenu il y a quelques jours à Paris. Quelles sont un peu déjà les tendances mondiales qui se dessinent?
Écoutez, mercredi, jeudi dernier, 5000 visiteurs, une belle progression par rapport à l'an passé. pour le salon de l'immobilier commercial organisé par le Conseil national des centres commerciaux. Beaucoup de fréquentation, beaucoup d'intérêt. La présence du pavillon Afrique, et je dois le dire, à notre initiative, et qui a mobilisé une source d'intérêt. Les grandes tendances, les acteurs qui étaient présents sont principalement des acteurs français qui évoluent sur le marché français. C'est le principe du Conseil national des centres commerciaux. Mais pour rebondir sur votre question, c'est l'avenir dans le continent africain en particulier. Et nous pensons que la France peut largement accompagner cet essor et ce développement.
Vous dites ça parce que peut-être que les centres commerciaux dans les pays riches du Nord sont peut-être morts à cause du e-commerce ou pas ?
Non, ils ne sont pas morts.
Donc il faut se développer en Afrique ?
Le e-commerce existe. L'Afrique, c'est un territoire où les Africains ont envie de recevoir certaines marques. Vous évoquiez tout à l'heure la notion du commerce informel. Je pense que c'est une réalité. Moi, je plaide largement en faveur de la démocratisation de la consommation. Et il ne s'agit pas de barrer la route aux consommateurs qui aujourd'hui considèrent que l'accès aux produits des centres commerciaux est élevé ou cher. C'est au contraire leur favoriser cet accès.
Alors pour le moment, ça concerne quelle tranche de la population sur le continent africain, les centres commerciaux ?
Raisonnablement, suivant les pays, parce qu'il y a de gros écarts entre pays, bien encore, mais bon, je dirais que les récentes études qui ont été faites ici ou là, on est à peu près tous d'accord pour s'approprier le chiffre d'environ 10 à 12%, peut-être 15%, certaines villes, avec des particularités, c'est que les villes sont quand même très importantes, il y a des concentrations et ça ne se fait pas dans les contrées, dans les campagnes ou dans la brousse, bien évidemment.
Danonona, les tendances dans les pays du Sud en général, ce sont les centres commerciaux s'implantent dans des zones périurbaines, dans les nouvelles villes, dans les banlieues, à la faveur de l'horizontalisation des villes du Sud ou pas forcément ?
Pas forcément. Essentiellement au centre-ville, à un endroit qui est facilement accessible. Encore une fois, pour pouvoir accéder à un centre commercial, il faut pouvoir bénéficier d'une offre de parking pour démocratiser l'accès et surtout faciliter sa visibilité. Donc les centres commerciaux, on le voit à Abidjan, sont principalement développés autour du boulevard VGE, Valéry Giscard d'Estaing. À Douala, on est en plein centre-ville collé à un hypermarché déjà existant. Également sur Brazzaville, on est en centre-ville. C'est d'abord une tendance de fond en Afrique subsaharienne de démocratiser cette offre commerciale en la mettant en centre-ville.
Sur un continent comme l'Afrique, où on parle beaucoup de l'arrivée en masse aussi du e-commerce, est-ce que les consommateurs ne vont pas sauter l'étape des malls pour arriver directement au shopping sur Internet, comme ça a été le cas pour le mobile, par exemple, le téléphone mobile qui a court-circuité le téléphone classique avant même qu'il s'installe ?
Mon avis, c'est que le e-commerce ne se substitue pas totalement au commerce de distribution physique. On offre dans un lieu de rassemblement de la famille d'autres services qui font que ces gens ont envie de venir. Et en particulier, et ça c'est la grande particularité peut-être du commerce en Afrique, on aime à développer des lieux de vie pour que les familles, le samedi, y compris le dimanche, puisque la plupart des opérations sont ouvertes le dimanche, puissent se trouver autour d'une place de restaurant, avec des jeux pour les enfants. C'est une vraie demande. En fait, les marques qui sont agrégées autour sont, je dirais quelque part, des compléments utiles et nécessaires, mais on aime à créer des lieux de vie. Le terme centre commercial que nous utilisons, que vous utilisez dans les propos, devrait être amendé, modifié pour créer des lieux de vie. Voilà. C'est la vraie terminologie, utile, nécessaire, d'intérêt public pour une population qui s'y rend de plus en plus pour y passer du bon temps. L'intérêt est celui-là. Et alors le commerce ou le e-commerce, le commerce électronique, lui, est un élément de confort supplémentaire, mais il ne se substituera pas totalement au lieu de vie que la famille aime avoir fréquenté.
Alors c'est quand même une consommation uniformisée, mondialisée, standardisée.
Tout à fait, mais les Africains aspirent également à adopter ces modes de consommation occidentaux. L'exemple de la FNAC est un bon exemple. Régulièrement, nos clients nous disent « qu'est-ce que je suis content enfin d'avoir une FNAC ici ?» parce qu'à chaque fois que je retournais au pays, en France, on me demandait de ramener des tablettes électroniques, des téléphones portables, des livres, des CD.
Oui, maintenant, ça c'est pour la diaspora, hein, c'est ça. Ils n'ont plus besoin, ils disent bah, « va te servir toi-même ».
Exactement, et ça fonctionne bien.
Les prix sont plus élevés ou pas ?
Non, alors ça dépend des pays, ça dépend des taxes douanières et des barrières douanières que l'on doit surmonter avec nos partenaires locaux. Mais généralement, on essaye d'uniformiser les prix.
Alors, comment se développent les centres commerciaux dans les pays du Sud, en particulier sur le continent africain, qui était jusque-là dominé par le commerce informel ? Est-ce qu'il y a une spécificité des centres commerciaux sur le continent africain ? Vous pouvez bien sûr nous appeler, on en discute avec nos invités. 33 1 84 22 71 71. You can get anything you want.
You know what I'm saying? You want that over there? You want that over there? Got you.
I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand. I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand. I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand. I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand.
I was up late night ballin', so far from my past misfortune. No sleeping, late nights, no eating, gun squeezing. I'm a real artesian, Ramona. I was round that counter, still down, I'm a north-north soldier. G-slide, right down Sawyer. When we slide, you won't see morning. Another story of a young black man trying to make it up out that gym. Goddamn, back, let me make my bends. Got plans, if you hatin', don't shake my hand. Take it easy, homie. Reminiscing, sitting in that Benz of the 22 bus stop way back when with the 22 five shot eyes on scan for the click clack clap of the boot bop bam cuz
I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand. I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand. I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand. I was up late night balling, counting up hundreds by the thousand.
C'est Big Fish et 7 milliards de voisins, Vince Staples sur RFI. On parle des centres commerciaux aujourd'hui. Alors c'est vrai que sur le continent africain, on en discute avec vous Bertrand Boulet et Danonona, c'est le continent pour le moment du monde qui possède le moins de magasins physiques.
Aujourd'hui, il y a à peu près, alors évidemment ce sont des chiffres, à peu près 6 400 000 mètres carrés de centres commerciaux sur le continent africain. Sur à peu près, on va dire, sur les 54 ou 55 pays, suivant la définition qu'on veut bien donner en Afrique. Pour votre information, la France en compte 16 millions, vous voyez. Donc pour l'Afrique aujourd'hui...
Il y a encore de la place pour tout le monde, c'est ça.
Il y a encore de la place pour tout le monde et on projette à peu près 250 ouvertures de projets dans les 7 ou 8 années à venir, avec quelques pays qui ont déjà, qui occupent le leadership en matière de positionnement.
Alors on doit trouver quoi dans un centre commercial d'une ville africaine par rapport à un centre commercial d'Amérique du Sud, par exemple ?
On va pas imaginer la même chose déjà. Vous savez, si vous vous adressez à des auditeurs français de France qui vont vous dire un centre commercial, ce sont des exemples comme Bélissy 2, Belle Épine, Paris 2, ce sont des projets
dans
qui
font...
Dans
des villes nouvelles, donc souvent,
dans des villes nouvelles qui font 50, 60, 100 000 mètres carrés. Les projets qui se développent aujourd'hui et qui, à mon avis, sont davantage à taille humaine, et parce que le process de développement n'est pas tout à fait le même, c'est globalement des projets qui font, et c'est d'ailleurs la taille moyenne retenue aujourd'hui dans l'analyse, à peu près 15 000 ou 16 000 mètres carrés de GLA composés.
Ça ne nous dit pas grand-chose comme ça, mais ça veut dire quoi ?
Ça veut dire
deux fois plus petit qu'un centre commercial américain, par exemple, trois fois plus petit,
oui, trois fois plus petit qu'un mall américain. C'est un gros supermarché alimentaire, c'est pas un hypermarché, c'est un gros supermarché qui fait à peu près 1 500 ou 2 000 mètres carrés, et puis une quarantaine de boutiques et quelques restaurants et services. Voilà, ça, c'est la taille unique humaine qui permet de pouvoir réaliser une opération, on va dire, en zone urbaine. Mmh. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'installer un projet à 30 km de la ville ou dans une ville qui n'est pas connectée par les transports en commun. Il faut être proche de la population. Il faut offrir un lieu de vie, je le répète, on le disait tout à l'heure. Il ne faut donc pas être à distance impossible des lieux de vie et de résidence.
Est-ce que l'arrivée des centres commerciaux signifie que le pouvoir d'achat s'améliore ou pas ?
Tout à fait, il y a une classe moyenne. On a assisté à ces 10-15 dernières années à une bancarisation de l'économie, à un développement des transports, de la santé, de l'éducation. On le voit avec de nombreux partenariats entre écoles de commerce françaises et puis en Afrique subsaharienne notamment. Donc il y a une classe moyenne, et on parle de classe moyenne, les personnes qui gagnent à partir de $800 par mois, ce qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Donc oui, il y a un vrai développement de la classe moyenne, et on le voit. La petite anecdote, c'est quand on a commencé à s'intéresser à l'Afrique, nos partenaires africains nous ont dit « ne nous faites pas une FNAC au rabais ». On connaît bien la FNAC de Paris, celle du Forum des Halles, de Ternes. On veut une vraie FNAC. Et on leur a apporté des vraies FNAC dans ces pays avec le même mobilier, la même signalétique, la même exigence de concept architectural. Et c'est très important de ne pas se moquer de cette population qui aspire justement à adopter les mêmes codes de consommation.
Et alors comment faites-vous pour vous adapter au pouvoir d'achat, justement, aux alentours de $800 par mois ?
Alors, on a une profondeur de gamme qui est différente. On adopte...
C'est bien dit, une profondeur de gamme différente. Non mais ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire qu'on propose des produits qui sont moins chers, pour des tablettes, pour des téléphones portables. Mais ne nous leurrons pas, la FNAC ne vient proposer qu'une offre structurée qu'on trouvait auparavant dans l'économie informelle. L'avantage, c'est que aujourd'hui, quand on achète un appareil mobile à la Fnac ou une tablette ou un ordinateur, on sait qu'il est vrai, que ce n'est pas une copie, qu'on bénéficiera des services et de la garantie. Et ça, c'est une vraie différence avec le commerce informel.
Qu'est-ce qui se vend le mieux, la technologie, à l'heure actuelle, dans les Fnac en Afrique?
La micro-informatique et tous les appareils nomades, dits de mobilité urbaine.
Ouais. Alors, à Abidjan, il y a un exemple de centre commercial Place Marcory qui a ouvert il y a 2 ans maintenant, c'est ça, avec un hypermarché Carrefour au milieu, qui a d'ailleurs couplé avec du commerce sur Internet, où le centre commercial devient aussi un centre de paiement et puis un point relais pour les colis commandés sur le site. Ouais. Est-ce que Place Marcory, on dit qu'il y a beaucoup de monde le samedi, est-ce que c'est l'exemple de ce qui va se développer sur le continent en Afrique francophone?
Sur les formats, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, j'ai contribué à son esquisse. C'est tout à fait la définition du projet qui correspond aux besoins et à la demande en termes de taille, en termes de proximité, en termes de typologie. Alors on peut peut-être développer davantage les services de restauration ou l'animation. On peut peut-être imaginer demain créer des éléments qui permettent aux usagers, aux consommateurs d'avoir un bowling, d'avoir un cinéma.
Si on prend un centre commercial au Caire par exemple, il y en a plusieurs, je crois même qu'il y en a un où on peut skier.
On est dans la démesure, on est dans les principes des centres commerciaux qu'on appelle véritablement, alors pour le coup, le mall, qui est excessivement puissant, dans lesquels il y a des dépenses incontrôlables en matière d'investissement, avec des concepts totalement délirants, et parce que on est dans le rêve. Je ne pense pas que ces projets soient ceux qu'il faut privilégier pour le continent africain. Vous disiez tout à l'heure, et je reviens là-dessus parce que c'est un point important, le commerce informel est dans la rue et vos auditeurs disent c'est toujours très cher dans les centres commerciaux. Je répète que nous pouvons démocratiser la consommation en ayant des enseignes internationales qui assurent une traçabilité des produits, une sécurité à tous les stades. Ce que vient d'expliquer Dan Onona pour les produits de la Fnac.
Ça, c'est forcément déjà un peu plus cher.
Mais c'est un peu plus cher, mais un consommateur, une consommatrice préfère aujourd'hui acheter un vrai produit qu'un produit d'une autre marque, fût-elle très élevée en notoriété, qui ne soit pas vrai. Et je crois qu'aujourd'hui, on le rencontre, on est tous d'accord pour penser aujourd'hui que quelqu'un, je ne vais pas citer de marque à l'antenne, mais quelqu'un préférera acheter une marque, un vrai produit d'une vraie marque, plutôt que d'aller rechercher un produit similaire dont il sait pertinemment qu'il ne provient pas du réseau classique.
Alors, si on prend le Maghreb, le Maroc, par exemple, n'a-t-il pas vu trop grands, trop luxueux, avec certains centres commerciaux, avec des produits trop luxueux par rapport aux revenus de la population?
Pour une partie de la population, vous avez raison. Si on cite ce centre commercial qui est un peu à l'écart des flux naturels de Casablanca, le Morocco Mall ou la Fnac a choisi de s'implanter la première fois en 2011, mais à l'instar des Galeries Lafayette ou d'autres grandes enseignes de luxe, il était important pour nous de capitaliser sur le phénomène d'attraction. Quand vous avez une masse critique, et notamment pour Casablanca, qui a une population qui est bien différente de celle qu'on rencontre en Afrique subsaharienne, en termes de pouvoir d'achat, il était important pour nous d'être là où ça allait se passer, où on allait avoir des dizaines de millions de personnes qui vont fréquenter. Et ça continue de fonctionner, malgré tout, même s'il y a eu quelques petits échecs, notamment pour ce grand magasin français qui s'est transformé récemment.
Alors vous restez avec nous, Bertrand Boulet et Dan Onona. On va rendre l'antenne pour le flash. Juste après, on se retrouve dans 3 minutes pour la suite de cette conversation sur les centres commerciaux, notamment sur le continent africain, avec cette question. Est-ce que l'explosion des centres commerciaux, vous nous disiez plus de 200 créés dans les années à venir, peuvent-ils profiter à l'économie africaine et surtout aux emplois de l'économie africaine? On en discute dans un peu plus de 3 minutes. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Restez avec nous. Retour dans 3 minutes maintenant, juste après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, gros plan sur les centres commerciaux, notamment sur le continent africain. Quel avenir dans ces pays du Sud? Qu'est-ce que cela va changer aussi pour les économies locales? On en parle avec vous, Bertrand Boulet, professeur et consultant en urbanisme commercial. et président de Molen Market. Dan Onona, vous êtes directeur du patrimoine et de l'expansion du groupe La Fnac d'Arty. Et évidemment, depuis cette émission, vous nous parlez beaucoup du continent africain. Vous avez déjà ouvert plusieurs enseignes et d'autres en prévision. Et quant à vous, les auditeurs, bien sûr, appelez-nous, surtout si les centres commerciaux ne vous donnent pas satisfaction. D'ailleurs, vous avez aussi la parole 33 1 84 22 71 71. Vous nous le disiez, Bertrand Boulet, en début d'émission, on annonce la création de plus de 250 nouveaux centres commerciaux d'ici quoi, d'ici 7 ans, c'est ça, sur le continent.
Une petite dizaine d'années avec, voilà, avec la marge d'incertitude, parce que vous savez, il n'y a pas de vérité absolue sur les statistiques.
Hors Afrique du Sud, bien sûr,
oui,
pays là où les centres commerciaux sont les plus prometteurs à l'heure actuelle.
Il y a une grosse partie sur le continent africain qui concerne les pays d'Afrique du Nord, puisqu'il y a quand même une volonté marquée de la part des enseignes de se positionner directement sur ces pays. Alors on parle évidemment du Maroc qui a déjà initié la plupart de certains de ces projets. L'Algérie est très prometteur en matière de développement, et bien sûr la Tunisie, parce que le tourisme, et il faut d'ailleurs leur souhaiter, va probablement repartir et il y a une demande.
Mais pourquoi vous dites le tourisme d'ailleurs ? En quoi ça serait lié au tourisme ?
Parce que les touristes aiment fréquenter les centres commerciaux, c'est pas une hérésie que de le dire. Si vous prenez un Parisien qui va passer ses vacances à Casablanca, il va aller forcément...
Il va peut-être venir travailler à Casa, mais peut-être pas y passer ses vacances, vu la taille de la ville.
Il peut y aller, il va aller probablement passer quelques heures et déjeuner ou dîner au Morocco Mall, c'est pas impossible.
Alors on parle bien sûr donc du Maroc, vous le disiez, Nigeria, beaucoup de centres commerciaux déjà là-bas, dans ce géant de l'Afrique.
Ben, Nigeria, pas tant que ça, si vous voulez. Il y a un avenir.
Par rapport à la population.
Oui, par rapport à la population, non. Il y a globalement des grands pays qui se dessinent aujourd'hui, sont les pays du bassin du Congo, ça évidemment, avec tous les pays que l'on connaît. L'Angola, le Rwanda, le Mozambique, qui se développe fortement. Le Ghana, qui est un pays prometteur pour différents types d'installations, et dans les 200 ou 250 centres commerciaux, on va dire 250 centres commerciaux qui sont imaginés à terme.
Pas beaucoup d'Afrique subsaharienne francophone, hein, là-dedans.
Quelques-uns quand même, à l'initiative des entreprises de distribution et d'enseignes françaises, dont Dan va nous parler, parce que j'aimerais dire quand même que les opérateurs de centres commerciaux sont somme toute que des ensembliers. Ce ne sont pas les opérateurs des centres commerciaux qui font le commerce du demain. Ce sont les enseignes qui font le commerce. Et lorsqu'une enseigne vient en Afrique, elle a besoin de trouver son partenaire, c'est-à-dire celui qui sera le représentant de la marque. On est à peu près dans la même typologie que ce que l'on a constaté il y a déjà de nombreuses décennies dans les départements d'outre-mer, où si vous regardez bien le mode de distribution en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, pour ne parler que de cela, vous avez forcément des enseignes qui sont représentées par des opérateurs locaux. Donc, aller en Afrique, et Dan Onona pour la FNAC le sait mieux que moi, il a dû trouver un partenaire. Et si nous dessinons demain un centre commercial à Brazzaville, à Pointe-Noire ou à Yaoundé, il faudra le remplir. Un centre commercial vide, nous en avons connu en Algérie, certains ont décidé d'investir...
Ça coûte très cher pour ceux qui ont investi.
Ça coûte quelques dizaines de millions, c'est pas une garantie absolue, et quand ça reste vide, c'est un vrai problème pour l'environnement et pour l'investisseur.
Bon, alors on donne la parole à des auditeurs qui fréquentent pour certains les supermarchés ou carrément les centres commerciaux. Victor nous appelle. Bonjour Victor, vous avez 25 ans, vous êtes au Cameroun ?
Bonjour Emmanuel Bassid, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Soyez le bienvenu, on vous écoute Victor.
Bonjour Victor.
Je voudrais faire un petit témoignage par rapport à la fréquentation des supermarchés.
Mmh. Allez-y.
Lorsque je me rends là-bas au supermarché, c'est parce que la qualité des produits m'impressionne, malgré le prix qui est exorbitant. Et quand je viens juste pour payer des produits cosmétiques, des détergents, des tomates, et ces choses juste pour me prendre, ou bien pour prendre soin de moi, aussi prendre soin de la famille.
Mmh. Donc vous achetez aussi bien des cosmétiques que de l'alimentaire, hein?
Oui, j'achète des produits cosmétiques et aussi des produits alimentaires.
Mmh.
Parce que là-bas, les produits sont de bonne qualité et c'est rapidement consommable aussi.
Mmh. Victor, où est-ce que vous allez exactement? Dans quelle ville au supermarché?
Et quand j'étais en Djamena, je me rendais dans le supermarché de Djamena. Et quand j'étais en Moundou, je me rends aussi dans le supermarché.
Ah d'accord, c'est ça, oui, vous êtes dans la capitale économique du Tchad, à Moundou. Hein, et effectivement, alors il y a des supermarchés à Moundou?
Oui, il y a des supermarchés. Les supermarchés ne sont pas nombreux ici dans cette ville. Mais au moins, il y a quelques-uns.
Ouais. Mais quand vous parlez de supermarché, il ne s'agit pas de centres commerciaux, hein, on est d'accord. C'est juste un magasin en tant que tel.
Oui. Et quand je fais allusion, ou bien quand je parle de supermarché, le supermarché est bien différent des centres commerciaux. Dans le supermarché que j'ai l'habitude de me rendre, les choses sont étalées et là, quand je me rends là-bas, je sionne sur la boutique et je cherche les produits dont j'en ai besoin. Je rassemble, c'est à la sortie que je viens payer la facture.
Oui, c'est ça, d'accord. Mais quand vous venez au supermarché, vous ressortez quand même avec des achats. Vous n'êtes pas juste venu pour regarder.
Non, pas seulement pour aller regarder, mais je sors avec des achats.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Victor?
Dans la vie, je suis un étudiant.
Vous êtes étudiant, d'accord. Donc pas forcément un très gros pouvoir d'achat, hein, mais ça va venir après les diplômes. Très bonne journée à Moundou, Victor. Alors c'est intéressant parce que beaucoup d'auditeurs encore sont dans la confusion entre supermarché et centre commercial. Certains nous ont demandé sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que c'est exactement un centre commercial? Et bonne question.
Il y a une définition, et rassurez-vous, même en France, et même la DDE commettent cette grave erreur quand ils affichent les destinations de commerce. On parle un supermarché, une enseigne alimentaire, une enseigne de bricolage, c'est un centre commercial, enfin on mélange tout. Notre éditeur Victor parlait de sa probable visite dans un magasin alimentaire de peut-être 700, 800 mètres carrés, 500 mètres carrés.
Plusieurs rayons et une caisse à la fin où il faut payer. Hein.
Mais on appelle ça un centre commercial. Et les Français, rassurez-vous, font pas mieux. Nous définissons un centre commercial comme un lieu composé de différentes boutiques et magasins, organisé avec un parking commun, une gestion commune, souvent abrité, souvent géré par le même propriétaire. Ça n'est pas forcément une obligation, mais enfin c'est le grand principe. Et avec aujourd'hui une offre complémentaire, avec une locomotive qui peut être alimentaire ou non alimentaire, mais c'est souvent le cas d'une surface alimentaire, et un nombre. Et il y a des définitions, des graduations dans la notion de centre commercial. On va du centre commercial communal au centre commercial régional ou suprarégional. Et là, les centres commerciaux comme Morocomol, dont on parlait à l'instant, peuvent être rangés aisément dans la catégorie des malls commerciaux suprarégionaux. Ils sont immenses. Mais c'est pas le principe qu'il faut retenir aujourd'hui. Et je reviens sur le caractère de la simplicité de ces projets.
Simplicité, une fois qu'ils sont là et que ça marche.
Oui, c'est compliqué.
Ouvrir un centre commercial dans une ville africaine, c'est plus compliqué qu'ailleurs ou pas?
C'est compliqué partout. C'est compliqué partout. Il y a plusieurs disciplines et techniques qui se superposent.
Mais les problèmes,
la problématique fondamentale
des implantations africaines, c'est quoi à l'heure actuelle?
Le vrai premier problème, c'est le foncier. Le foncier, c'est le terrain. Pour nos auditeurs, c'est trouver un terrain.
Ça, ils connaissent. Le foncier, je peux vous le dire, tout le monde connaît en Afrique.
Trouver le terrain. À qui appartient le terrain? Être sûr qu'il appartient à une bonne personne. Éviter qu'une fois construit, quelqu'un vienne revendiquer la propriété du terrain. Donc là, ça pose un vrai souci. Donc être certain que le terrain est bien à la personne qu'on a en face de soi. Ensuite, il y a le problème du prix. Parce que, je voudrais le dire tout de suite, les projets de centres commerciaux ou de centres de vie ne sont pas des machines à faire de l'argent. C'est pas de la promotion immobilière.
Donc c'est de l'humanitaire?
Pas du tout, c'est pas de l'humanitaire, mais les dépenses... Il y a une équation qui est difficile, parce que il faut à la fois gérer les coûts de construction, qui sont globalement aussi chers qu'en France, qu'en Europe, ou pratiquement, certains diraient même plus chers dans certains cas, pour les matériaux qu'il faut faire venir, si on n'utilise pas alors des matériaux très locaux, et il faudrait d'ailleurs le faire comme ça. Et puis ensuite, il y a la complexité du prix de sortie. On disait tout à l'heure qu'on ne peut pas vendre des produits très cher. Il ne faut pas que les marques vendent très cher les produits. Elles payent un loyer qui, globalement, équivaut au loyer français.
Tout à fait.
C'est à peu près la même chose. Je pense que Dan ne me démentira
c'est
pas.
C'est le cas pour quoi ? Pour Abidjan, pour Brazzaville ?
Oui, c'est ça. On est à peu près
pour Libreville, c'est ça ?
Essentiellement, tout à fait.
On est à peu près sur les mêmes niveaux de loyer. Et vous avez, alors, pour des raisons qui sont mais inconnues, des prix de foncier d'affichage qui sont, alors je vais dire le mot, je vais dire 7, 8, 10 fois, 15 fois le prix français. C'est pas réaliste, parce que ceux ou celles et ceux qui vendent le terrain ou qui veulent le vendre s'imaginent que celui qui va réaliser le centre commercial va être tellement riche qu'il peut payer un prix de terrain incroyable.
C'était pour le coup de gueule, donc. Mais c'est la réalité.
Mais c'est la réalité. Alors, il y a la problématique du foncier, il y a la problématique de trouver les espaces nécessaires pour le faire. Parce que là encore, le terrain est contraint, les terrains bien placés le sont, les terrains connectés par différentes infrastructures le sont, et il faut donc trouver des emplacements qui permettent de pouvoir bénéficier de tous les atouts. C'est la même chose, la même analyse, il n'y a pas une analyse à rabais pour l'Afrique. On veut faire la même chose qu'en France, qu'en Europe.
Mais alors qu'est-ce qu'il faudrait pour que le prix du foncier diminue quand vous parlez de prix qui
il
sont tout à fait exorbitants
Il faudrait que unanimement...
Que les propriétaires de terrain se calment, qu'il y ait de la concurrence, qu'il y ait encore de la place dans ces villes.
Bien sûr. Il faudrait unanimement que l'on considère que le commerce, au sens général, soit considéré comme d'intérêt public. En France, les centres commerciaux pèsent à hauteur de 5,5% du PIB français, représente à peu près au niveau du CNCC 130 milliards de chiffre d'affaires. L'Afrique peut demain avoir un modèle économique identique. Car quand on fait un centre commercial, on encourage également le commerce informel dans la rue, on le professionnalise, on lui donne une valeur ajoutée importante et on peut demain professionnaliser toutes les formes de commerce. C'est pas l'un contre l'autre, c'est avec l'autre. Et cet élément
parce
de...
qu'autour d'un centre commercial, forcément, il y a du monde qui vient, donc
on
ça...
génère de la formation, on génère de la
ça,
du savoir-faire.
Ça favorise le trafic surtout de gens qui viennent. Donc effectivement,
ah oui, le flux, le trafic,
voilà,
c'est le flux.
Hein.
Oui, oui. On génère du flux, mais on va aussi générer la prise en compte. Les Africains sont des commerçants innés, ils ont tous eu une expérience en matière de commerce au coin de chez eux. Et ils savent le faire mieux que d'autres. Donc, il faut les encourager à le faire dans des conditions.
On donne la parole dans quelques instants à un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Oui, on l'a tout de suite. On va donner la parole à Yvan, 25 ans également. Bonjour Yvan.
Bonjour Claire.
C'était Emmanuel. Vous êtes bien à Abidjan, c'est ça ? Et vous fréquentez les centres commerciaux ou pas ou plutôt
oui,
uniquement le supermarché ? Racontez-nous.
Oui, je fréquente les supermarchés, les petits marchés. Bon, en fait, je vous explique que le mieux lorsque on veut faire des achats, c'est de pouvoir trier un peu les articles qu'on veut acheter. Mais si vous voulez acheter un article industriel ou un article importé, le mieux, c'est d'aller dans un supermarché parce qu'il coûte beaucoup moins cher là-bas que dans les petits marchés de quartier.
Est-ce que vous vous rendez par exemple à Place Marcory, qui est le dernier le centre commercial à Abidjan ?
Oui, oui.
Et qu'est-ce que vous en pensez ? Vous achetez ? Vous faites des achats à Place Marcory dans les différents magasins ?
Oui.
Bonjour Yvan.
Oui.
Qu'est-ce que vous recherchez dans ces magasins justement qui sont maintenant à votre portée, aussi bien à Place Marcory qu'à Cap Nord ou Cap Sud. Qu'est-ce que vous attendez principalement ? La qualité des produits ?
Oui, la qualité des produits.
Le service ?
Oui, la qualité des services aussi.
D'accord.
Mais alors, vous dites que vous allez dans ces magasins pour des produits importés essentiellement ?
Essentiellement.
Et pour des produits locaux ?
Les produits locaux, je ne peux pas aller dans les petits marchés, dans le Carrefour bien à Djamé.
Je pense que c'est logique, c'est logique. En France, on a la même chose. On a les commerces de centre-ville traditionnels, avec certaines spécificités qu'on ne trouvera jamais dans des centres commerciaux implantés. Et bien, en Afrique, pourquoi vouloir modifier les choses ? Je crois que tout peut cohabiter. D'une façon, c'est pour ça qu'il faut encourager la création de ces projets, permettre, comme le dit notre auditeur, de pouvoir s'y déplacer pour des produits manufacturés. Voilà.
Mais alors, vous avez dit au standard, Yvan, que finalement, les prix ne sont pas si chers que cela, donc vous alliez un peu à l'encontre de pas mal de témoignages d'auditeurs, pour une paire de baskets, par exemple, achetées dans un mall.
Oui.
On vous écoute.
Oui. Pour cette paire de baskets que j'avais vue à Djamé, je l'ai vue à 87 000 francs. et j'ai acheté la même dans un supermarché à 56 000 francs. Il y a une différence assez grande quand même. Hein.
Attendez, vous l'avez trouvé moins cher dans au supermarché?
Oui, que dans les petits marchés connus.
Mais c'est un peu normal, il y a un effet volume. Mmh, quand vous avez une centrale d'achat pour Place, et je ne sais pas quelle est l'enseigne qu'a fréquenté Yvan, mais quand vous êtes en capacité de proposer 10 000 paires de baskets, vous avez un pouvoir de négociation qui est beaucoup plus important auprès du fournisseur que le petit marchand local.
C'est pour ça qu'on doit réaliser des projets quand on les réalise, pour permettre aux enseignes de s'installer dans ces lieux de commerce, dans ces centres commerciaux. Il faut que les loyers proposés ne soient pas plus élevés que ceux qu'on pratique habituellement dans les différents pays du globe, et que, en conséquence, les commerçants ne répercutent pas des loyers élevés sur les prix des consommateurs. C'est le principe. C'est comme ça que ça fonctionnera. Tout le monde est gagnant si on procède de la sorte. Le problème, c'est qu'il faut dire...
L'État ne peut pas plafonner les loyers.
L'État peut avoir un rôle
de
régulation des prix et encourager la réalisation de ces projets en disant à celles et ceux qui sont propriétaires des terrains, dotons cet endroit d'un projet de commerce, un centre commercial, et le centre commercial ne peut pas payer un terrain plus d'un certain prix. Référence française, référence espagnole, référence européenne, c'est facile.
Merci
c'est facile.
Yvan de nous avoir appelé pour ce témoignage de consommateurs. Alors, quant à ceux qui travaillent dans un centre commercial, si vous avez une petite pause là et que les clients vous en laissent le temps, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Qu'est-ce que ces centres commerciaux peuvent changer dans les économies locales? Quelles opportunités aussi pour les entreprises et les marques africaines? Parce qu'on a beaucoup parlé de marques françaises pour le moment. On en discute dans quelques instants. Vous écoutez 7 milliards de voisins, c'est Lucifer qui chante, on parle des centres, non c'est Neka pardon, c'est Neka qui chante, on parle des centres commerciaux aujourd'hui sur RFI et notamment tout spécifiquement de l'explosion des centres commerciaux sur le continent africain, une explosion qui démarre tout juste, qui devrait aller en puissance, monter en puissance dans les années à venir. On parle de près de 250 centres commerciaux, hein. Je ne parle pas de supermarchés mais bien de centres commerciaux avec à l'intérieur au moins un supermarché, plusieurs magasins, toujours des chaînes. Et d'ailleurs, depuis le début, Bertrand Boulet d'Anonona, vous nous parlez de marque française d'Anonona. C'est normal, vous représentez la Fnac Darty. Bertrand Boulet, pour l'instant, c'est l'Eldorado pour des marques françaises qui veulent s'implanter sur le continent africain. Ça, on l'a bien compris. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer pour les économies locales, pour les marques africaines?
Il y a aujourd'hui des acteurs, je l'ai constaté dans mes différents déplacements, il y a aujourd'hui des acteurs, des commerçants, des entreprises locales, qui ont des capacités à ouvrir des magasins et qui aiment à rejoindre cette palette, ce bouquet de marques, puisqu'on parle de bouquet de marques. Alors les marques sont aujourd'hui françaises, mais nous rêvons de faire venir des enseignes espagnoles, italiennes, anglaises, suédoises. Et je pense que quand on aura montré le chemin, elles viendront, elles se sentiront sécurisées. Et nous aimons aussi développer dans ces bouquets de marques des marques locales, des acteurs locaux, des commerçants locaux. qui ont des capacités à faire tout aussi bien que les autres.
En pourcentage, ça représente quoi aujourd'hui? Je sais pas, une marque de cosmétiques made in Africa qui s'implante dans un centre commercial.
En pourcentage, on est autour de 15 à 20% aujourd'hui.
Donc moins de 20% de marques et d'entreprises, d'acteurs locaux, d'entreprises africaines.
Mais on pousse et on les encourage. Largement. Quand la FNAC s'implante...
Vous y avez intérêt, vous ?
Bien sûr, naturellement, parce qu'on forme le personnel. On fait appel à des entreprises locales et il faut rappeler que les Africains sont de grands entrepreneurs. Il y a une culture de l'entrepreneuriat, de la micro-entreprise en Afrique et elle se développe à la faveur justement de l'arrivée de nouvelles enseignes. Même le commerce informel commence à se structurer à la faveur d'un commerce organisé qu'on retrouve dans les centres commerciaux. Donc naturellement, on encourage ça. Et pour la culture, quand vous avez un acteur comme la FNAC qui s'implante en Afrique, eh ben, l'objectif pour nous, c'est de vulgariser l'accès à toutes les cultures et à la culture locale notamment. Du coup, ça encourage des musiciens, des auteurs à venir justement nous soumettre leurs créations et pourquoi pas en faire la promotion à travers nos magasins.
Pour le moment, qu'est-ce qui est en place de ce côté-là justement ?
La FNAC organise 12 000 événements par an dans tous ses magasins. On a vocation, on a déjà commencé à le faire.
12 000, c'est pour tous les magasins.
Pour tous les magasins FNAC dans le monde.
Qui sont essentiellement d'abord en France.
Dans les pays occidentaux, pas mal en Europe, mais également en Afrique. On l'a vu à Casablanca, ça fonctionne bien. Et à Douala, on organise le festival FNAC Live. À l'instar de ce qu'on va faire sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris, avec 4 jours de concerts gratuits, on est en train de l'organiser à Douala. Ça a lieu cette semaine. Et naturellement, ça se poursuivra également à Brazzaville et dans les autres pays où on s'implantera.
Vous pensez qu'il y a aujourd'hui, puisque pour le moment, ce que vous vendez le plus, c'est quand même de la technologie, de l'informatique ?
Et non. Sachez que la FNAC est avant tout un libraire. Les gens viennent d'abord pour les livres.
Oui, mais dans vos FNAC en Afrique ? Pour le moment, on vient d'abord acheter de l'informatique plutôt.
Alors, on vient chercher de l'informatique parce que du petit équipement électronique, vous avez raison. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on a une traçabilité du produit. Mais les Africains sont ravis, aussi bien les locaux que les expatriés sont ravis de pouvoir avoir accès à un catalogue riche de plusieurs milliers de références qu'ils ne peuvent pas trouver en dehors de leur déplacement.
Il y aura une demande à terme pour les produits culturels, pour du livre, pour des concerts, pour des conférences.
Ah, naturellement, on le voit à Abidjan. On est devenu un référent au niveau de la vente de CD, aussi bien local qu'international.
Qu'est-ce que ça va changer dans les comportements, cette arrivée en masse de centres commerciaux dans toutes les grandes villes africaines, Bertrand Boulet, au lieu de visiter sa famille, on va visiter le mall ?
Non, vous savez, c'est pas d'abord une arrivée en masse, je crois qu'il faut relativiser les villes. Prenez une ville comme Brazzaville, à peu près 800 000 habitants, le jour où on aura planté... deux centres commerciaux, peut-être trois, on aura une capacité qui sera pratiquement arrivée au sommet. Je pense que parce que les enseignes ne vont pas pouvoir installer 10 ou 15 FNAC. Le jour où Oudan aura installé deux FNAC à Brazzaville, je pense qu'il aura rempli
parce
le marché.
Ça attire du monde, mais encore faut-il après que ça fasse des clients qui achètent. Là, il se trouve qu'on a des consommateurs qui ont appelé, qui disent qu'ils achètent, mais il y a beaucoup de curieux aussi qui viennent se promener dans un centre commercial.
On est au début, il y a un taux de ce qu'on appelle le taux de transformation, c'est-à-dire la référence entre le nombre de visiteurs et celui qui consomme. N'est pas l'équivalent de la France ou l'équivalent de l'Europe ou de l'Espagne ou du Portugal. On a des curieux, ils viennent passer du temps. Ils viennent finalement se faire plaisir aussi. Ils viennent découvrir. Bon nombre de nos auditeurs français vont Place Vendôme lécher les vitrines, je ne suis pas sûr qu'ils rentrent tous chez...
les plus grands joailliers.
Bien sûr, donc on a le droit de se faire plaisir. C'est vrai aussi pour les gens qui rentrent dans les grands hôtels, ils n'y dorment pas forcément, ils viennent prendre un verre, lécher les vitrines des magasins. Donc,
est-ce qu'aujourd'hui, cette arrivée de centres commerciaux dans les villes africaines, essentiellement dans les capitales, c'est le signe clairement que l'Afrique est un continent comme un autre ou que l'Afrique va devenir un continent plus que jamais à deux vitesses finalement, Danonona.
C'est un continent qui connaît une croissance démographique très importante. Du fait de la stabilité politique qu'on enregistre depuis 10 ans, de manière générale sur le continent africain, les investisseurs reviennent en Afrique et investissent massivement. Du coup, ça permet à cette population d'avoir accès à tous les services occidentaux et de faire partie de ce mouvement de globalisation de l'économie. Donc naturellement, ça va servir à tout le monde parce que ça va créer de l'emploi, ça va démocratiser la culture, ça va démocratiser l'accès aux technologies, aux transports. Et on le voit à toutes les initiatives qui sont prises actuellement en Afrique. Demain, l'Afrique sera le premier continent à produire sa propre électricité grâce au solaire.
Ouais, à condition qu'il y ait de l'électricité facilement dans les malls, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui en Afrique, non ?
Ça peut être des problèmes, ça. Ça peut être des problèmes techniques, effectivement. L'aspect technique doit être géré d'une façon assez précise.
Bon, et en conclusion, alors vous, c'est l'Afrique à deux vitesses plus que jamais ou pas, Bertrand Boulet ?
Je pense que nous contribuons aujourd'hui, les opérateurs, les marques, moi je suis excessivement heureux quand Dodane m'a appris qu'il se développait dans les pays d'Afrique subsaharienne. J'ai trouvé que c'est une très belle nouvelle. Il y a demain une vraie volonté pour les opérateurs à se développer en Afrique. Il y a une volonté de le faire. Il y a une sorte de sécurisation aussi pour que le Conseil national des centres commerciaux français, le CNCC, décide de créer un label Conseil africain des centres commerciaux. C'est quand même pas une réflexion à la légère. Voilà. Et dans quelques mois, ce sera le cas. Donc,
on retrouvera ça sur notre page 7 milliards de voisins. On va mettre tous les liens, bien sûr, pour se renseigner. Merci à tous les deux. Bertrand Boulet, professeur consultant en urbanisme commercial. Vous avez publié plusieurs livres sur l'urbanisme commercial aux éditions Le Moniteur. Et merci à vous, Danonona, directeur du patrimoine et de l'expansion du groupe La Fnac d'Arty. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Hugo Violas, Raphaël Lazizi. Demain, 7 milliards de voisins. Comment utiliser sa voix quand on est une femme, non pas pour chanter, mais se faire entendre ?